m'en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Damien Roucou.
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Il y a deux ans, en 2022, il avait présenté son premier spectacle musical immersif qui réunissait ses trois passions, la musique, le spectacle vivant et le cinéma. Aujourd'hui, cet amoureux des rimes et des rythmes, des images et des mots, revient avec un projet plus intimiste, plus familial aussi, puisque l'on y entend sa femme, sa sœur, ses enfants, son père aussi. Un cinquième album émouvant et introspectif, centré sur la famille, le deuil, la mémoire, les épreuves de la vie. Hippocampe Fou est en direct avec nous, des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Il a donc répondu présent. Présent, c'est le titre de son nouvel album disponible chez Plugin Records et vous m'en direz des nouvelles.
Je suis plus proche du demi que du quart de siècle. Je m'assagis, j'ai moins soif de sexe. Mes idoles s'éteignent une à une et moi je reste encore un peu avec mon sac de questions. Y a-t-il plus d'appart vides que de familles qui dorment sur les trottoirs? Est-ce que mes enfants quitteront la terre avant qu'il soit trop tard? On dormira quand on sera mort, mais est-ce qu'on fera des cauchemars? 50 degrés à l'ombre, mettront-ils encore des costards? Ah ouais, c'est ça de grandir. Trop de questions. Je vieillis sans cesse.
Bonjour Hippocampe Fou.
Bonjour Jean-François, ça va ?
Très bien, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous en duplex de Bordeaux. Vous avez un concert ce soir, c'est pour ça que vous n'êtes pas avec nous à Paris. Alors comme ça, c'est un peu la crise de la quarantaine pour vous ?
Oui, c'est surtout la quarantaine tout court. Là, je ne peux rien faire, je ne peux pas mentir. J'ai eu 40 ans en début d'année et c'est vraiment un âge où on commence à faire un petit peu le bilan et à revoir tout ce qu'on a pu déjà accomplir et ce qui nous reste à faire et les différents chemins qui s'offrent à nous. Et on a l'impression qu'ils sont un peu moins nombreux parce que les années passant, il faut faire des choix. Et moi, j'ai choisi, par exemple, d'avoir une famille et d'élever des enfants. Et donc, ça restreint forcément un petit peu les chemins possibles.
Mais demi-vieux, c'est qu'une moitié, quoi. Demi-vieux, ça veut dire demi-jeune aussi, d'une certaine façon. Pourquoi vous avez choisi la pire moitié des deux?
J'ai choisi demi-vieux parce que ça rimait bien avec j'avance à petits pas, m'éteins à petit feu.
Oui, voilà. Ah oui, c'est important,
petit
les rimes.
Feu, je me suis dit, ma femme est une déesse, mérite-t-elle un demi-vieux? C'est pas mal. Et c'est devenu le titre du morceau. Et je trouvais que ça résumait bien l'état d'esprit. Parce que finalement, c'est évidemment tourné vers le passé d'une certaine façon, mais aussi vers le futur. Mais comme le futur, quand on se projette et qu'on a 40 ans, le point de fuite, en fait, ce qui est le plus certain, en tout cas, quand on regarde face à l'avenir, c'est la fin du voyage.
Oui.
Et je pense qu'on s'en rend compte vraiment à 40 ans. Et moi, j'ai préféré dire demi-vieux, c'est aussi le fait d'accepter le fait de vieillir. Je pense qu'il faut accepter.
Bon, je vous garantis qu'à 50 ans, c'est pire. Hein, mais enfin, bon, ça, je ne vais pas vous parler de ma vie. Alors, en tout cas, cette prise de conscience de la fuite du temps, Hippocampe Fou, c'est ça qui vous a donné envie, justement, de vous recentrer sur cet essentiel que représente la famille ?
Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'une part, cette prise de conscience-là, le fait aussi de cette envie de faire participer les gens que j'aime.
Ça, c'est complètement nouveau.
C'est venu aussi. Ça, c'est nouveau. Bah, j'avais déjà travaillé avec mon papa parce qu'il est compositeur. Et donc, je l'avais invité à chanter, jouer de la guitare sur des albums précédents. Mais ma femme et ma fille, par exemple, n'ont jamais enregistré de chansons avant cet album. Enfin, ne l'avaient jamais fait. Et je me suis dit que, comme je faisais beaucoup d'ateliers d'écriture et que j'accompagnais des novices dans l'écriture d'un morceau à chaque fois et que je trouvais à chaque fois le résultat très satisfaisant voire excellent, je me suis dit je pourrais le faire en fait avec les gens que j'aime. Et puis on a vécu un drame sur le plan familial, mais quelque chose qui finalement est assez commun et qui arrive malheureusement à chacun d'entre nous, c'est de perdre nos parents, enfin voilà, bon, en tout cas en l'occurrence c'était ma belle-maman, et ça nous a affectés. Et je pense que cet album, il est né aussi de cette blessure, de ce choc, de cet instant brutal qui voilà, où on voit quelqu'un passer de vie à trépas, on n'est pas prêt. Et malheureusement, bah, plus on vieillit, plus on est confronté à ça. Et ce qui est incroyable, c'est que pendant la conception de cet album, des gens qui notamment ont travaillé sur l'album ont perdu aussi leurs proches, enfin leurs parents. C'était, j'ai pas envie de dire l'hécatombe, je vais pas rigoler sur ça, mais c'était presque comme une malédiction. Et en fait, je me suis dit non, c'est pas une malédiction, c'est simplement qu'on a 40 ans et qu'en fait, on arrive à cet âge où on commence à perdre nos parents et on est les prochains sur la liste.
Alors, voilà. Il y a votre papa dont on entend la voix, hein. C'est très court, c'est un morceau qui nous parle d'éternité, il chante pas, mais il dit des mots vraiment très très beaux. Il y a votre petite sœur Anaïs pour un duo autour de la question de la famille, il y a votre épouse Élodie pour un piano-voix très émouvant en hommage à sa mère qui n'est plus de ce monde, comme vous venez de le raconter. Et puis aussi ce featuring avec Lily, la plus jeune de vos enfants, ça s'appelle « T'as pas la ref ».
Je sais pas comment tu vis sans Twitch, c'est triste comme tes sandwichs. Sur TikTok, t'es cringe, papa, crois-moi, je te le dis, je m'en fiche. Ta vie, c'est un thread d'horreur, j'avoue, j'aurais préféré un featuring avec Natsu. Ris pas, je parle du Shiba, il est plus suivi que toi, bref, t'as pas la ref. T'es bon sur scène, mais dans les petites salles, on ne voit jamais dans les festivals. Je connais aucune star dans le game, j'attends toujours mon autographe d'Angèle. D'ailleurs, c'est pas toi le meilleur, t'es qu'un mauvais player. Quand tu fumes, t'as les yeux rouges comme Muzan, obligé d'appeler les piliers de Demon Slayer. T'as pas la ref. Au collège, personne te connaît, à part mon prof d'histoire, fan de poney.
Ouais, il est gentil.
Il a 60 ans, il est malentendant, il habite seul avec sa mère dans la forêt. N'aie pas le seum, fais pas le jeune, arrête avec tes mots d'ado. Polos. T'es grave chum et fat gum, dis-moi où sont passés tes abdos.
Bah.
T'as pas de bling, t'as pas d'army.
Hein?
Tes seuls fans, c'est des mamies.
Non.
Personne vient voir tes chorégraphies moisies, même pas tes amis. Papa, j'espère que tu m'en veux pas.
Okay.
Devant tes clips, je rigole pas. Tais-toi, laisse-moi regarder Joyka.
Bien vu le tacle, mais je l'évite comme Olivier Tom. J'arrive, broliqué comme Shaft, John McClane, Cobra, Jack Slater ou Nicky Larson.
Je connais.
Tu joues les vols qui rient, mais t'es pas de taille face à mon artillerie. Et toutes les phrases qui riment dans mon joli cahier Waikiki. Ouh ha, boum, bidi bye bye.
Tranquille.
Tu chailles, tu te crois dans le coup, c'est cela, oui. Branché comme une Tesla, mais que peux-tu contre une ferraille? Je crois que t'as pas compris, je t'oublie dans les marécages de la mélancolie. En compagnie d'Artax. Hey, petit Tamagotchi, tu veux que je te nourrisse? Contacte-moi par fax.
Hein?
Sache qu'un tas de personnages que tu trouves illustres seront oubliés comme Brandon Brenda, Cortex Minus, il que ou Pticus.
Chut.
T'as le même style que tes copines, t'as le baggy, t'as le legging et le pas def. T'as peur de pas trouver ta place, tu te fonds dans la masse, pourquoi tu fais la chef? Je te file une pièce de 5 francs, une chignole, un bout de ruban, c'est pas insultant? C'est le kit intégral pour fabriquer ta médaille d'argent.
Tu
communiques dans le skeu, miskin, mais où est le respect, hein?
Wesh.
T'as plus la tête sur les épaules, normal, il ne peut en rester qu'un.
T'es éclaté franchement, comme tes playlists.
Ouais, mais 75% de ce qu'il y a dans tes playlists, c'est moi qui t'ai fait découvrir. Tous les Disney déjà, quand t'étais petite. Doja Cat, Ice Spice, Central Cee.
Ouais, Hippo, il apparaît pas dans mes playlists en tout cas.
On a la même langue, mais pas le même jargon, pas les mêmes gestes. On a les mêmes rêves, on a les mêmes valeurs, mais t'as pas la ref. On a la même langue, mais pas le même jargon, pas les mêmes gestes. On a les mêmes rêves, on a les mêmes valeurs, mais t'as pas la ref.
Mais il est bien ton prof d'histoire, moi. Je le trouve un peu. Voilà, il est un peu rigide.
Il est chauve.
Voilà, t'as pas la ref, notre invité Hippocampou en featuring avec sa fille Lily dans VMDN sur RFI. Je l'adore vraiment cette chanson. Elle a l'habitude de rapper avec vous, Lily Hippocampou?
Non, pas du tout. Elle a l'habitude de m'écouter rapper.
Ouais.
Elle a l'habitude d'écouter du rap, puisque j'en écoute depuis qu'elle est née. Elle a aujourd'hui 13 ans. Bon, bah, depuis qu'elle est arrivée de la maternité à la maison, elle a entendu du rap, peut-être pas les premiers mois parce que je voulais pas la brusquer, c'était plutôt des berceuses, mais évidemment elle a écouté beaucoup de rap et je pense qu'elle a intégré en fait toutes ces techniques. Évidemment c'est un texte qu'on a écrit à quatre mains, on l'a fait ensemble, je l'ai accompagné comme
de,
je le disais
de A jusqu'à Z,
dans les ateliers d'écriture.
Oui.
Pardon ?
Vous l'avez écrit vraiment tous les deux, hein, de A jusqu'à Z. On parlait tout à l'heure de votre intérêt pour la transmission, ce côté un peu prof, hein, les ateliers d'écriture, comme vous le disiez, Hippocampou. Écrire, ça s'apprend ?
Oui, ça s'apprend. Après, je pense que tout s'apprend. il faut avoir l'envie de pousser un petit peu le travail un peu plus loin. Et donc, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend lors d'un atelier d'écriture, ce qu'on apprend en regardant un tuto sur Internet, c'est les bases. Et ensuite, il faut avoir cette curiosité, cette soif d'apprentissage pour continuer le travail et que ça devienne vraiment une discipline qu'on a envie de maîtriser. Donc, quand j'interviens, par exemple, en milieu scolaire, je viens pendant une semaine et voilà, peut-être que ces jeunes que je fais écrire, ce sera leur seule expérience, mais peut-être aussi qu'il y en a qui prolongeront cette expérience, ce travail à la maison ou via d'autres expériences, d'autres ateliers. Et l'idée, c'est ça, c'est simplement d'essayer de créer une petite étincelle. Et là, avec ma fille, en tout cas, bah, je lui ai dit, on fait un morceau. Je ne sais pas si elle fera une carrière musicale.
Ouais.
Bon, en tout cas, je suis très heureux d'avoir fait ça avec elle parce que c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Et je crois que c'est né d'un jour où j'écoutais de la musique qui était la même musique que d'habitude. Hein, je veux dire, des morceaux un peu rap 90s, mais aussi des morceaux très modernes puisque j'essaye de me tenir au courant de tout ce qui sort. Donc, elle m'avait dit « Arrête avec ta musique de Yeuve !» Et j'avais été super vexé. J'ai dit « Comment ça, ma musique de Yeuve ? Tu rigoles ou quoi ? T'écoutes la même chose que moi ? Fais voir ta playlist. » Et en fait, ce qu'il y a dans le morceau, c'était une vraie discussion qu'on a eue un jour. Bon, là, on l'a réenregistré en studio, mais c'était vraiment ce truc-là. Et je me suis dit « Ah, en fait, je crois que quoi qu'il arrive, il y a un moment où nos ados nous trouvent ringards. » Donc, j'ai voulu désamorcer le truc. Et en même temps, je me dis que ça peut créer des petites discussions entre des parents et leurs ados. Et si c'est le cas, bah, tant mieux, parce que l'idée, c'est de réunir les générations plutôt que de les écarter.
Mais tous ces membres de votre famille, là, ils ont accepté vraiment facilement de bon cœur, parce que c'est une chose d'écrire une chanson dans l'intimité de sa maison, c'est autre chose que de s'exposer, de partager comme ça une intimité au grand jour, et en plus, parfois même, de se retrouver sur scène à vos côtés. C'est pas leur métier, eux.
C'est pas leur métier. Ma fille fait du théâtre depuis 5-6 ans. Elle a l'habitude de se produire sur scène. Bon, c'est évidemment, c'est dans des petits théâtres et tout, mais franchement, elle voulait, je sais pas si c'est toujours le cas, puisqu'elle est à l'âge où, bon, il y a plus vraiment, on n'a plus envie de rien, mais elle voulait devenir actrice. Voilà,
d'accord, on reste dans le domaine artistique.
Voilà, donc je me suis dit, bon, c'est logique. Ma femme, qui a perdu sa maman, et comme je le dis, moi je l'appelle ma belle-maman, parce que on a grandi ensemble, on est ensemble depuis le lycée, donc c'était comme ma deuxième maman. Et on a vécu ça de manière vraiment très violente. Et je me suis dit, moi, quand je ressens quelque chose de fort et qui m'affecte, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'extérioriser les choses comme ça. Donc je me suis dit, faisons ce morceau, peut-être que ça nous fera du bien à tous les deux. Et peut-être que les gens, j'espère que les gens pourront se reconnaître ou sentiront que ça vient du cœur et ça pointe le cœur des gens qui ont perdu ou pas leurs parents. Mais je pense toujours que quand on écrit un morceau, on dit ce qu'on ressent et ensuite, si les gens arrivent à s'identifier, tant mieux, parce que ça peut les aider à mettre des mots sur des émotions qui sont assez abstraites. En fait, c'est aussi le but de l'art, on va dire, comme la chanson, par exemple.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
J'attends un signe que la flamme d'une bougie vacille, que les étoiles s'alignent ou bien qu'un satellite scintille. En ce moment, c'est pas la joie, j'aimerais y croire, j'ai pas la foi. Mais je sais quoi faire quand ça va pas, quand la vie nous met au défi, quand on rame ici. Y'en a qui fuient, y'en a qui voient des psys, y'en a qui prient. Moi je me balade dans des paysages verdoyants, où j'hallucine face à l'océan chatoyant qui ondule. Et je frissonne sous mon pull en écoutant du Satie. Je pleure un temps et puis j'appelle un ami. Je me dis qu'il y a peut-être un peu de magie. Chacun sa thérapie, j'imagine. Pour déjouer ce piège établi, rejouer cette unique partie, j'ai juste besoin d'un peu de magie. Juste besoin d'un peu de magie pour remonter le cours de ma vie. Retrouver ceux qui sont partis. J'ai juste besoin d'un peu de magie. Juste besoin d'un peu de magie. J'ai l'air plus mature,
mais sous mon armure se dresse un vieil enfant assoiffé d'aventure, à qui tout semble doux, amer, clair-obscur, toujours en quête d'humains sincères au bal de l'imposture. Plus j'en apprends, plus je me sens ignorant. Je suis qu'une virgule dans un subtil roman. Ce que j'entreprends me semble insignifiant. Y'a rien à faire sur les photos, je souris tristement. Y'a plus grand chose qui m'émerveille, mais je sais voler de mes propres ailes. J'irai m'abreuver de soleil avant de m'enraciner. Je peux pas revenir en arrière, revoir ceux qui sont déjà sous terre. Je peux plus leur dire en face je t'aime, mais je peux l'imaginer. Pour déjouer ce piège établi, rejouer cette unique partie, j'ai juste besoin d'un peu de magie. Juste besoin d'un peu de magie pour remonter le cours de ma vie, retrouver ceux qui sont partis. J'ai juste besoin d'un peu de magie. Juste besoin d'un peu de magie.
Un peu de magie dans VMDN sur RFI grâce à notre invité Hippocampe Fou. Alors vous avez obtenu l'an dernier, Hippocampe Fou, un prix qui salue le rappeur francophone qui utilise le vocabulaire le plus diversifié. Alors ça mérite effectivement quelques félicitations. Comment est-ce que vous avez découvert la magie des mots ?
La magie des mots, eh bien je dirais que j'ai d'abord été fasciné par les images qu'on pouvait créer en associant des mots qui, à première vue, n'étaient pas faits pour être associés. Voilà, en mélangeant des choses de la pop culture qui sont à des années-lumière l'une de l'autre, et de réunir ça avec un peu de mots savants, entre guillemets, et aussi des choses qui sont plus de type argotique, l'expression du moment. Et je me disais, mais en fait, je peux mélanger tout ça et créer quelque chose qui en fait, c'est comme du collage un peu. C'est quand on prend des matières différentes comme ça et qu'on les associe. Moi, à l'époque, je faisais une fac de ciné et j'adorais le montage et j'adorais monter des choses que je filmais, mais qui était vraiment prise à des moments, capturée à des moments complètement différents. Et je trouvais que je pouvais créer un discours, quelque chose de neuf, avec des choses assez disparates. Le côté patchwork, en fait, me plaisait. Donc c'est ça que j'ai fait au départ dans mes textes. Et c'est pour ça que c'était très foisonnant, très farfelu. Et je voulais être que les gens se disent ouais, « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» J'ai l'impression de zapper ultra vite d'une chaîne à l'autre de télé. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les mots pouvaient m'aider à exprimer mes émotions et pouvaient toucher les gens, parce qu'ils se reconnaissaient dans ce que je disais. Et donc c'est là où j'ai compris la magie et la puissance des mots, parce qu'à la fois je pouvais raconter des histoires, aller dans un univers totalement imaginaire, et en même temps aller au plus profond de mon cœur, de mon âme, et aller faire ressurgir tout ce qui était pesant, tout ce qui me faisait mal, tout ce qui était de l'ordre de la frustration, des choses comme ça. Et voilà, il y a quelque chose de thérapeutique dans l'écriture. Et voilà, donc on peut s'éclater, on peut se faire du bien, c'est magique, c'est cool.
Bon, la musique, elle est aussi dans votre ADN, la musique c'est un petit peu familial aussi pour vous.
Eh ben oui, c'est mon papa, mon grand-père, mes oncles, toute la famille en Colombie, le côté colombien, parce que mon père est né en Colombie, d'un papa musicien, il est lui-même musicien, compositeur, guitariste. Moi j'ai baigné là-dedans et j'avais ça dans le sang. Et c'est pour ça que ma sœur, dont vous parliez tout à l'heure, ma sœur, elle, c'est pareil que moi. C'est-à-dire, on a grandi avec le même papa, cette même ambiance, ces week-ends avec tous les amis qui sont un peu tous des déracinés, en fait, qui sont des exilés, qui vivent en France et qui sont vénézuéliens, colombiens, et qui se réunissent et se retrouvent grâce à la musique. Et donc, nous, on était là, on se rendait pas compte du côté exotique entre guillemets de ces instants-là, parce que c'était normal, c'était les week-ends en famille, et en grandissant et en voyant en fait d'autres gens et en s'ouvrant à d'autres familles et tout, on s'est dit mais c'est fou parce qu'on a grandi avec de la musique tout le temps. Et donc au moment où nous on a commencé à faire de la musique, donc moi un peu plus tôt que ma sœur parce qu'on a aussi 10 ans d'écart, on avait tout de suite quelques facilités, sans forcément avoir pris des cours de solfège. Donc je pense qu'il y a, quelque chose qui est de l'ordre de l'inné et quelque chose de l'ordre de l'acquis. Et voilà, ça se mélange et on essaye d'en faire quelque chose.
Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants, Hippocampe Fou?
Qu'est-ce que je veux transmettre? Quelques valeurs qui me semblent importantes, comme la tolérance. C'est bateau, mais c'est comme ça, hein. c'est des choses... moi, j'ai une maman, ma maman c'est John Lennon, c'est Imagine, elle est comme ça, mon papa aussi d'ailleurs, et j'ai grandi avec ces valeurs-là, et l'idée c'est d'être bienveillant, tolérant, d'être à l'écoute, et la curiosité, pour moi c'est très important, la curiosité. C'est ce que j'essaye aussi de transmettre dans ces ateliers d'écriture que je fais assez régulièrement. J'essaye de dire aux jeunes, faites ce que vous voulez dans la vie, allez là où vous avez envie d'aller, mais gardez cette curiosité, parce que je crois que quand on est tout jeune, quand on est enfant, le monde est merveilleux et tout est nouveau et tout est un nouveau terrain de jeu. Et on a tendance, en vieillissant, à avoir cette sensation... qu'on a fait un peu le tour des choses, on sait déjà plus ou moins ce que c'est une histoire d'amour, ok, c'est ça la mort, ok, c'est ça voyager, ça, ok, l'Afrique c'est comme ça, l'Asie. Et on a tendance à être un peu blasé et on a de moins en moins de rêves et on finit un peu aigri et puis je sais pas, moi j'ai pas envie de finir comme ça et j'ai pas envie que la société ressemble à ça et j'ai envie qu'on avance ensemble et qu'on aille les uns vers les autres. Et je pense qu'en étant curieux, ça passe par une curiosité sur le plan culturel, donc d'enrichir sa culture et d'apprendre des choses, mais aussi au niveau des cultures différentes, d'autres pays, d'autres traditions. Et je pense que l'idée de voyager et de rencontrer des gens, et ça peut être aussi juste descendre dans sa rue et aller dans un endroit dans lequel on n'a jamais mis les pieds, sortir un petit peu de la routine et de ce chemin tout tracé dont je parlais. Et je pense que c'est bien de faire des pas de côté régulièrement. Et voilà, donc la curiosité, très importante.
Merci beaucoup Hippocampe Fou. L'album s'appelle Présent, il est disponible chez Plugin Records. Merci aussi à nos confrères de France Bleu Gironde à Bordeaux qui nous ont permis de vous avoir en direct à quelques heures de votre concert à Senon. Vous serez aussi le 5 décembre à Montpellier, le 6 à Marseille, le 7 à Romans-sur-Isère. Et la tournée reprend le 24 janvier en Savoie, à Rumilly. Rendez-vous aussi le 14 mars au Trianon à Paris. Ensuite, ça continue. Allez, on respire.
On s'accroche puis on laisse fuir. On se construit sur des vestiges. À l'affût d'une éclaircie. On est seul mais on respire. On s'accroche puis on laisse fuir. On se construit sur des vestiges. À l'affût d'une éclaircie. On est seul mais on respire.
Le ciel est gris, c'est pas grisant. C'est déprimant, le monde est sourd et trop bruyant, ça c'est épuisant. Les optimistes ont un slogan, pas si fascinant. Après la pluie vient le beau temps, ouais c'est évident. La joie nous éclaire de façon éphémère, ça c'est navrant. Mais faut pas se laisser faire, c'est clair, c'est la vie qui nous l'apprend. Quand t'es sur les routes, tu la crans au fond du gouffre. Faut parfois prendre du recul pour aller de l'avant. Inévitable. En attendant, on rit, on pleure, on vit, c'est pas si mal.
Respire Hippocampou avec sa sœur Anaïs sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et avec nous cette semaine, Clara Gabillet, Laura Dulieu, Olivier Roger, bonjour à tous les trois.
Bonjour Jean-François.
Alors il n'y a pas si longtemps, on a reçu dans cette émission la grande star ivoirienne Tiken Jafakoli. Aujourd'hui Laura, vous allez nous parler d'un saxophoniste qui l'a longtemps accompagné.
Ah, tout à fait, qui sort un album que je qualifierais de savant mélange de saxo, de cora, de calebasse, un pont entre la musique mandingue et le jazz.
Il s'appelle Jean-Baptiste Mundele. Je ne suis pas arabe, c'est pas moi qui le dis, c'est le titre du spectacle que vous êtes allé voir pour nous, Clara.
Oui, on va partir en Algérie, alors pas qu'un simple voyage, on va partir vraiment à la recherche des origines, des racines. C'est vraiment une pièce sur la transmission et la mémoire.
Mais pour commencer, direction l'océan Indien en musique.
Sura kwana tifitara tse Nraita kwa Zewulu ya binampiza Lugna vandesa kusinu zereti kwe Mavuzo.
Ils viennent de Madagascar, ils font donc de la musique et on compare déjà le chanteur Marco Clark au Camerounais Blik Bassi ou au français Yamé. Belle référence, hein, Olivier.
Oui, tout à fait, effectivement.
Alors Marco Clark et son frère Kevin Ravel qui l'accompagne à la guitare sont les belles révélations du festival Africolor qui se tient en ce moment à Paris, en région parisienne, c'est jusqu'à Noël.
Oui, et quand on pense à la musique malgache d'ordinaire, on entend des airs d'afrobeat, d'amapiano, de musique punk, c'est une spécialité locale, autant de styles qui sont en vogue dans la grande île, mais on ne pense pas forcément à un duo guitare-voix, à cette musique folk, sensible, touchante. Alors, qui sont ces deux extraterrestres, Marco et Kevin? On va les laisser se présenter.
Je m'appelle Marco Clark, je suis auteur, compositeur et interprète malgache de Mouronav, sud-ouest de Madagascar, et je chante depuis 4 ans et demi.
Je m'appelle Kevin Ravel, je suis le frère de Marco et je suis aussi guitariste et compositeur. J'ai commencé en même temps que lui, donc depuis fin 2019-2020.
Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes tous les deux inséparables?
Oui, on est inséparables, ça c'est sûr.
On habitait ensemble, on était jusque tous les deux dans un petit studio et on faisait surtout ça, de la musique, quand on se retrouvait entre nous. Et c'est les copains qui nous disaient « faut créer les gars, faut créer ». Et c'est comme ça que petit à petit on a commencé à créer des chansons.
Alors, sachez, Jean-François, que Marco Clark écrit les textes et Kevin Ravel compose à la guitare. Les deux frères travaillent d'autant plus facilement qu'ils partagent un patrimoine musical commun, comme l'explique Marco Clark.
Déjà, nos parents, ils écoutaient des musiques différentes. Mon père écoutait beaucoup de musique du sud, de Madagascar, beaucoup de country américaine et beaucoup de, un peu de jazz. Et ma mère, elle était plus de la soul, de Tana, un peu, la musique un peu plus classique. Et nous, du coup, on a grandi en regardant la télé, MCM et MTV, voilà. Et tout ça, ça a un peu mixé, du coup. Et après, il y avait eu cette, une période où les artistes remettait en fait le style vintage à la mode, et puis c'était à ce moment-là que on commençait vraiment à construire une identité déjà auditive, et du coup ça nous a inspiré aussi à faire la musique, quoi.
Alors on l'a entendu, hein, Olivier, Marco Clark évoquait ces musiques du sud de Madagascar. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors ces musiques du sud de Madagascar, c'est un petit peu le fond culturel qui transparaît dans certaines des compositions de guitare. Bon, vous allez écouter ce qui vient et vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle.
Thank you.
Alors vous l'avez peut-être entendu, il y a des influences de Beko, de Kilakali, de musique Sakalav. Sakalav, c'est le nom de la communauté qui vit dans le sud de Madagascar, d'où sont originaires ses deux frères. Et les rythmes Sakalav ont vraiment influencé Kevin Ravel dans ses compositions. On l'écoute.
Une des caractéristiques d'un certain pan de la musique du sud, c'est les rythmes ternaires. Et moi, c'est sur le tas que j'ai appris que je jouais en ternaire, parce qu'en fait, c'est instinctif. Parce que c'est finalement ce rythme-là qui est un peu différent du rythme qu'on a l'habitude d'écouter ici en Occident.
Binaire.
Donc, binaire. Et je pense que c'est plus ça tient de ça, en fait.
Alors, les textes à présent, Olivier, de quoi parlent ces chansons de Marco Clark ?
Alors, on est ici sous l'influence conjuguée de Lana Del Rey et de Billie Eilish, que Kevin et Marco écoutent depuis toujours. Donc, forcément, on va parler d'amour, de désir, de douleur, de manque, ou encore de transmission parent-enfant. L'univers de ces deux garçons est profondément intimiste et Marco Clark en parle très bien.
Moi, quand je compose, en tout cas, c'est toujours par empathie. Je suis très empathique, en fait, je pense, et je compose comme ça. Il faut que je ressente les émotions pour pouvoir exprimer, quoi. Et en général, ça part toujours d'une expérience personnelle, quoi, avant de composer. Et même dans la mélodie et tout, pour que l'émotion soit visible et palpable, il faut qu'on dise quelque chose qui soit authentique, quoi.
Nana go, tanje muna manga u famisha mini zireni tite aita nao amira te befe lunene. Nana go, te irizo sua zaira sarubidia nana nao fatimura manulo anizireni.
Un tout dernier mot pour vous dire que Marco Clark et son frère Kevin Ravel sont soutenus par le rappeur français Aurel San. Aurel San, vous le savez sans doute, a créé une association à Madagascar, le projet ONI, OUN avec l'accent malgache. Et ce projet forme, promeut, soutient les artistes et les industries culturelles sur la Grande Île, dans les domaines de la musique, mais aussi de l'animation et du cinéma.
Olivier Roger dans le Café Gourmand de VMDM. Ayona, le titre d'Hamid El-Shaari, balade envoûtante pour nous emmener au théâtre à Paris avec vous, Clara. Je ne suis pas arabe. C'est donc le titre d'une pièce qui se joue en ce moment au théâtre de la Reine Blanche. On est vraiment dans le nord de la capitale française. Une pièce d'Élie Boissière et Ben Popincourt.
Oui, on s'est sûrement tous déjà posé la question de nos origines, de comment ont vécu, grandi nos grands-parents. Je ne sais pas vous, autour de la table, en tout cas, moi ça m'obsède. Et c'est ce qui a obsédé pendant longtemps Élie Boissière, le comédien et co-auteur de cette pièce. Un seul en scène, c'est lui qui est seul pour interpréter tous les rôles et pour nous raconter une histoire. La sienne et celle de sa grand-mère, Majouba, accompagnée par des notes de oud jouées par Ahmed Amin Benfeghera. Majouba, c'est donc cette grand-mère flamboyante, un peu caractérielle, un peu têtue aussi. Mais Majouba, c'était avant. Elle a fait changer son prénom pour Magda.
Tu me gonfles ! Tu me gonfles avec tes questions depuis tout à l'heure ! Oh ! Ça ne se fait pas de fêter la naissance d'un enfant avant qu'il arrive. C'est péché ! Voilà !
Alors pourquoi a-t-elle toujours refusé de se dire arabe alors même qu'elle est née en Algérie, ce pays dont on ne prononce d'ailleurs jamais le nom dans la famille d'Élie ?
À chaque fois que j'osais poser des questions, c'était toujours « laisse les morts tranquilles, ne te retourne pas sur ton passé, vis ta vie, Oran ça n'existe pas ». Tout ça, ça donne encore plus envie, ça attise la curiosité, tu vois.
Le début d'un long processus, d'abord l'écriture des questions avec son co-auteur. Ensuite, Élie Boissière a fait emménager sa grand-mère chez lui dans un 35 mètres carrés à Paris pendant 2 mois pour lui parler, pour l'interroger, pour enregistrer tout ça, parfois dans la dispute et même les pleurs.
Et dans la pièce, tout part en fait d'un point de départ, hein, quand Élie s'apprête à devenir père.
Oui, c'est à ce moment-là qu'il veut absolument connaître ses origines, comprendre. On embarque ensuite alors avec lui dans un voyage en Algérie, à Oran, mais aussi dans un voyage dans le temps. On repart dans les années 30, quand la grand-mère Majouba n'était qu'une enfant.
Machuba, 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 ça va ma fille, ça va, tout va bien, regarde-moi, tout va bien, regarde-moi, tout va bien.
Alors cette pièce parle évidemment de sujets profonds, hein, parfois difficiles, la colonisation, l'immigration, les questions de religion. On rigole aussi beaucoup quand même avec toute une fresque de personnages colorés, délirants parfois, comme ce vendeur de glace assez déluré.
Allez-y messieurs dames, le concept il est simple. Pas de pièces, pas de boules, pas de molles. Trois pièces, trois boules et ça c'est la glace. Je peux pas arrêter de parler sinon la glace elle fond.
On voulait vraiment qu'il y ait du lourd et du léger, du profond et du en surface, du absurde et du très concret, très sérieux, du comique et il y a du drame. On a besoin aussi, en tant que spectateur, je pense, de souffler. Ok, ça c'est un personnage marrant, ok, c'est une imitation de Michael Jackson, 40 ans avant Michael, ok, d'accord, j'ai compris. Les moments de comédie permettent aussi d'alléger un peu ce truc très lourd d'identité, d'héritage, de secret de famille, de non-dit.
En fait, c'est tout un tabou auquel se confrontent les auteurs et donc le comédien. Alors, est-ce que cette pièce aura permis de comprendre pourquoi le secret est si lourd, si pesant ? Eh bien, pas tout à fait, explique Élie Boissière.
Eh bien, au final, je ne l'ai toujours pas compris. Et c'est peut-être même pas ça qui est important. Elle me dit souvent, ah, mais je sais où tu veux m'emmener. Tu veux me dire que je suis une arabe, c'est ça ? Tu veux me dire que je suis oranaise ? Tu veux me dire machin ? Alors, oui, je veux te dire ça, mamie, mais en même temps, quelque part, bah, ouais, ça lui appartient, tant qu'on a vécu tous ces moments ensemble, tant qu'on a écrit une belle pièce, où il y a de l'émotion. Le vrai du faux importe peu, finalement. Mais ce qui est fou, c'est qu'on n'en parle toujours pas de ce spectacle. Alors même qu'on l'a interviewé il y a 2 ans, alors même qu'elle sait qu'on a écrit, alors que je l'ai au téléphone, qu'elle m'a dit merde là tout à l'heure, on n'en parle pas, ça reste à vous. Je lui dis, mais alors, tu viens ? Elle me dit, ah, mais tu fais vraiment ton spectacle, ok, d'accord. Mais sinon, comment ça va ? Raconte-moi un peu, t'as une copine, tu vois, genre, on ne parle pas du spectacle comme on ne parle pas de l'Algérie. C'est évacué.
Oui, en fait, ça touche à la psychologie. On n'est pas dans quelque chose de thérapeutique, Clara.
Oui, c'est vraiment plus qu'un projet artistique. Pour le comédien, c'est un projet très global.
C'est un projet familial, c'est un projet de vie. Ça m'a rapproché ma grand-mère et moi, ça m'a rapproché elle et sa fille, ça m'a rapproché moi et ma mère. Ça a sorti des photos de famille qu'on n'avait jamais vues. Aujourd'hui, j'ai des cousins du bled en Algérie qui me contactent pour me dire « viens la jouer au rang, machin, etc. Enfin, » Le mot-clé, c'est « guérison transgénérationnelle ». Franchement, passer du temps avec vos grands-mères, avec vos grands-pères, passer du temps en famille. Après, moi, je suis cancer, donc je suis très racine et tout, tu vois. Mais c'est comprendre aussi son histoire pour pouvoir transmettre à notre tour, parce que c'est une pièce sur la paternité aussi, tu vois. Moi, j'ai envie d'être père, j'ai envie de raconter cette histoire. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Rapprochez-vous de vos familles, posez des questions, intéressez-vous à votre histoire. Vous n'imaginez pas ce qu'il y a derrière et comment c'est intéressant.
C'est vraiment une œuvre passionnante. Déjà, c'est très beau, très esthétique. Il y a beaucoup de jeux de lumière, des ombres. Parfois, il y a des moments où c'est juste éclairé à la bougie. Une œuvre très poétique, onirique, touchante. C'est presque un conte fantastique, comme un monde imaginaire.
Je suis le fils de Yann Boissière et de Leïla Rachel Hachmaoui, dont les rues sont fameuses partout et dont la gloire n'a pas encore touché le ciel. Loin de chez moi, le vent m'entraîna chez les cyclones. Je pillais Ismaros et massacrais ses défenseurs. On but beaucoup de vin et on égorgea sur le rivage force moutons et force bœufs fauves paisibles. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d'être vivants, mais pleurant nos compagnons morts. Le rassembleur des nus déchaîna sur nous le boré en bourrasque inouïe. Il couvrit de nuages la terre avec la mer et du haut du ciel tomba la nuit.
Une pièce à un seul en scène, vraiment remplie de tendresse et qui peut aussi, à travers ce que veut dire pour chacun l'identité, ça peut vraiment résonner en chacun de nous.
Je ne suis pas arabe actuellement à l'affiche du Théâtre de la Reine Blanche à Paris, c'était Clara Gabillet. Premier, on va aussi écouter bien sûr du jazz, hein, de l'African jazz plus précisément. Jean-Baptiste Mundele, qu'on connaît bien ici à RFI puisqu'il a longtemps accompagné Tiken Jah Fakoly, notamment sort un album Racine au pluriel. Et vous l'avez rencontré pour nous, bien sûr, Laura.
Oui, c'est un grand amoureux du jazz et de l'Afrique que j'ai rencontré. Ce disque est à son image un mélange de différentes racines musicales condensées dans un album qui s'appelle à juste titre donc Racines, et qui paradoxalement sonne comme l'aboutissement du parcours musical de Jean-Baptiste Mundele. Un parcours qui a commencé avec la clarinette, c'était un mauvais départ, on le reconnaît, avant la découverte du saxophone et du jazz, et forcément, vous le voyez venir, le fameux voyage à New York.
Là, j'ai vraiment compris l'épaisseur, la profondeur du jazz, plus que je l'ai ressenti en France, à Paris. Et donc, quand je suis revenu à Paris pour développer, pour continuer ma vie professionnelle, essayer d'avancer, de rencontrer d'autres gens, je me suis plus intéressé en fait à la musique africaine sur Paris, parce qu'on a beaucoup de grands musiciens africains qui vivent sur Paris en France. Donc, j'ai joué avec des groupes africains, j'ai commencé à aller en Afrique. Et effectivement, là, ça a été la claque. Pour ma première fois, c'était en an 2000 au Cameroun. J'étais avec un artiste qui s'appelle Gino Sitson, un chanteur camerounais qui est super, avec qui je jouais. Et là, ça a été la claque. Il y a une spontanéité, il y a un groove, une chaleur que j'aime beaucoup, que j'essaie naturellement de créer dans ma musique et d'intégrer dans ma musique.
Et ce n'est pas le premier album solo de Jean-Baptiste Mundele où se mêlent jazz et musiques africaines.
Oui, hein. On peut citer Fankabina en 2012, du jazz mandingue avec Griot, ou encore Révélation en 2016, c'est de l'African jazz. Et la différence avec celui-ci, je vous le disais, c'est l'exploration des racines, parfois au-dessus, parfois en dessous du saxophone, parfois en dansant avec lui, on est attrapé par la calebasse et la kora de la musique mandingue.
Pour moi, c'est un hommage aux racines africaines, aux racines du jazz, mais aussi, au sens plus large, à toutes les musiques afro-américaines, afro-descendantes, c'est-à-dire qu'on peut aller à Cuba, on peut aller au Brésil, on peut aller aux Antilles, et évidemment aux États-Unis. Moi qui ai eu la chance avec les grands musiciens, j'ai beaucoup tourné avec Tikenja Fakoli, mais avec d'autres artistes en Afrique, enfin dans le monde entier, mais particulièrement en Afrique, que j'aime beaucoup. Toujours avec mon sax pour participer avec plein de gens, de différentes musiques, des mariages, de la rumba, enfin beaucoup de choses. Et je me suis vraiment imprégné de cette culture en la vivant au quotidien. Je me suis vraiment rendu compte qu'en Afrique, il y a vraiment les racines de toutes les musiques aussi que j'aime, le funk, le jazz, voilà. Donc j'ai voulu faire un sorte de lien, bon, sans aucune prétention, je ne suis pas là pour expliquer comment ça se passe, mais c'est ma petite approche, mon petit témoignage à moi, en disant voilà que j'aime tellement l'Afrique, et il y a la danse, il y a le groove de la musique qu'on retrouve dans le jazz, qu'on retrouve à New York. Donc j'ai fait une formule avec de la kora, de la percussion et des percussions traditionnelles, en l'occurrence de la calebasse, avec un son très roots, mais avec des rythmes actuels, et avec le saxophone qui fait le lien avec la culture occidentale, avec le jazz. Quand je dis racine, c'est au sens large. Je viens du nord de la France, je viens de la Pologne. Maintenant, mon cœur est africain, je suis africain par mes enfants, par ma vie. C'est tout ça, voilà, les racines. Donc j'avais envie d'amener cette couleur-là.
Les 10 titres de ce disque, Jean-Baptiste Mundele nous emmène dans plusieurs endroits ou à la rencontre de plusieurs personnes. C'est comme ça qu'il a baptisé ses morceaux, comme le cinquième qui s'appelle Calabancora.
Calabancora, en fait, c'est un quartier de Bamako où j'ai résidé. Et quand j'étais à côté, j'ai pu rencontrer Moussangaré, j'ai pu rencontrer Salif Keita. Donc c'est vraiment des beaux souvenirs en fait. Voilà. C'est des moments qui m'ont construit aussi dans mon aventure musicale.
Le Mali donc, et puis aussi la RDC, c'est là qu'est apparu son nom d'artiste Mundele, et c'est du Lingala.
On m'a donné ça donc à Kinshasa, parce que comme moi je suis toujours avec mon sac, ça me promenait même dans les tournées, bon, à l'international, en Afrique, souvent on fait des voyages, on reste 2-3 jours dans un lieu. Donc moi à chaque fois, tous les soirs, je prends mon sac et je me promène. Donc les gens de l'hôtel et partout, les gens m'appelaient Mundele, Mundele Ndombi. En fait, ça veut dire le blanc noir. Et en fait, après, tout le monde dans le groupe de Tiken, ils m'ont appelé comme ça. Mundele, Mundele, parce que même dans le groupe de Tiken, j'étais un des seuls blancs aussi. J'ai beaucoup aimé ce nom, je trouve que ça sonne bien, j'aime beaucoup le Lingala. Et voilà, donc j'ai décidé de garder ce nom qui me donnait une couleur africaine, un peu comme la musique que je fais.
Une spontanéité à l'image de la musique du saxophoniste, c'est ce qu'il revendique même dans la manière de composer, l'instinct avant tout, mais pas que.
Bon, l'instinct, il nous guide pour vers ce qu'on a envie de faire. Après, une fois qu'on fait les choses, c'est vrai qu'on va structurer les morceaux. Je me donne une direction précise d'orchestration. En l'occurrence, là, avec ces instruments, c'est la civilisation mandingue. Et les morceaux sont structurés. Bon, il y a des thèmes, il y a des mélodies, il y a une façon de faire. Même si c'est d'une jazz avec une certaine liberté d'expression et de structure, mais on reste quand même dans un cadre, une structure sur laquelle on va développer les idées, les mélodies, etc.
Et après 10 ans, entre autres, à accompagner Tiken Jaffa Coli, un album en 2019 en hommage à son idole John Coltrane, JB Mundele va plus loin dans l'affirmation de son identité musicale. En 2019, il s'était entouré des meilleurs jazzmen, comme le pianiste Olivier Hotman, le batteur Tony Rabesson et Marc Payon pour la contrebasse. Pour cet album, il s'est aussi entouré des meilleurs, avec un musicien incontournable de la musique mandingue, Mbati Diabaté, qui officie à la kora, aux percussions et notamment à la calebasse, c'est Bruno Debiol. Un trio gagnant donc, sans aucun doute.
La musique de Jean-Baptiste Mundele pour conclure ce Café Gourmand. Merci à tous les trois, Laura, Clara et Olivier. Merci à vous pour votre fidélité. Bon week-end à tous. Lundi, c'est Chantal Leroux qui sera au micro pour une semaine. Elle recevra lundi Ludovic et Zoran Boukerma qui adaptent au cinéma le roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, paru aux éditions Actes Sud. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.